les chemins de traverse, il était une fois une fée jaune, la Gentiane. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Il était une fois une fée jaune. Bonjour et bienvenue dans l'univers de la Gentiane. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Flao, animatrice de l'association interprofessionnelle de la Gentiane jaune, Gentiana Lutea. Nous en étions à la gestion de la ressource et notamment sur l'impact climatique, mais pas que.
Les évolutions environnementales, climatiques, voire même les pratiques agricoles. Il y a des gens qui font des prairies de fauche, tout le monde ne fait pas de l'estive, enfin...
C'est un ensemble de facteurs au niveau des pratiques agricoles. Il faut d'abord commencer par dire que la gentiane trouve le milieu qui lui est favorable sur des prairies en pâturage bovin. Donc la gentiane a besoin de cette agriculture. C'est une plante qui prospère sur des terres agricoles, pas sur des espaces sauvages où l'homme n'intervient pas.
Vache et gentiane, les deux sont associées. Elles aiment bien brouter les boutons et les jeunes fleurs, mais pas systématiquement, comme si elles s'en nourrissaient instinctivement quand elles en ressentent le besoin.
Mais effectivement, si on a des zones qui sont moins exploitées qu'avant, ou s'il y a intensification des pratiques, vous disiez la fauche, la destruction de prairies permanentes, ce genre de pratiques qui, indirectement, sont liées à l'évolution climatique des fois aussi. Hein.
Oui, non, mais tout est lié, c'est difficile de...
Donc voilà, s'il y a intensification des pratiques agricoles ou des prises agricoles, eh ben, on va avoir soit trop de gentiane, soit plus assez. Donc s'il y a beaucoup de gentiane, ça peut justifier de l'intervention d'un arracheur qui va restaurer la valeur fourragère de la prairie pour une vingtaine d'années, on va dire, puisqu'il faut à peu près 20 ans entre deux arrachages. Et donc cet arracheur-là, ben voilà, il va faire un prélèvement raisonné et restituer la valeur fourragère de la prairie. Si cet arracheur ne peut pas prélever de gentiane parce qu'il y a une réglementation trop stricte qui interdit tout prélèvement, ou s'il en prélève de trop, parce qu'il n'a pas les notions de bonnes pratiques qui vont permettre à la plante de se renouveler. À ce moment-là, on va aussi rompre cet équilibre. C'est pour ça que les réglementations, elles peuvent être pertinentes et importantes. Malgré tout, il faut vraiment les réfléchir correctement, parce qu'on peut se retrouver dans des situations où... S'il y a une interdiction complète d'exploiter la plante, c'est une plante qui peut devenir envahissante sur la prairie. Et c'est des choses qu'on observe aujourd'hui d'ailleurs dans les Alpes, où il y a interdiction de prélever la gentiane depuis 20-30 ans, ça dépend des endroits.
Oui, il faut arriver à trouver le juste milieu.
Donc on réfléchit avec l'OFB, l'Office de la Biodiversité, qui est un peu la police de l'environnement, pour imaginer un cadre réglementaire autour de l'exploitation de la racine de gentiane, qui serait adaptatif à imaginer comme réel outil de gestion de la ressource. Il faut que les acteurs de la filière s'emparent de cet outil-là, l'acceptent et le fassent évoluer, avancer, je dirais. Il ne faut pas qu'ils le subissent comme étant un fil à la patte, je ne sais pas comment on pourrait dire. La notion de gestion adaptative peut-être répondre à cette... Mais en fait, on est à un moment où on a créé une marque sur la base du volontariat. C'est un plus, mais on sait que ça ne va pas suffisamment loin et qu'on aura peut-être besoin de cet appui réglementaire pour cadrer un petit peu...
Un peu légiférer pour encadrer tout ça.
Voilà.
vous parliez que dans les ZAP, c'est interdit, dans les massifs centrales, c'est autorisé. Même si on dit que dans les massifs centrales, c'est autorisé, mais c'est des accords avec les propriétaires terriens. Alors que dans les Alpes, il n'y a pas d'arracheur, on n'en arrache pas. Enfin, ça fonctionne comment ?
Ça dépend des endroits. Déjà, vous avez tout à fait raison de préciser qu'on n'arrache pas n'importe où, que même quand il n'y a pas de réglementation, l'agencienne appartient toujours à un propriétaire. Donc en fonction des endroits, ça peut être le propriétaire du terrain ou ça peut être le fermier ou les deux, ça dépend. En tout cas, il y a toujours un propriétaire de cette gentiane, même quand on est sur le domaine public. Cette gentiane, elle s'achète sur pied au propriétaire du terrain ou au fermier, ça dépend. Donc il y a un premier contrat de vente qui est réalisé entre son propriétaire et l'arracheur. Et il faut aussi qu'on se situe dans une zone où le prélèvement de gentiane est autorisé. Ce prélèvement de gentiane, il peut être interdit ou réglementé dans certaines zones géographiques, comme les réserves naturelles, comme certaines zones Natura 2000. Et sinon, la gentiane, qui est une plante protégée à l'échelle européenne, ça veut dire que en France, potentiellement, chaque préfet peut mettre en place une réglementation liée au prélèvement de gentiane. Et il y a certains départements qui ont fait le choix d'interdire complètement le prélèvement de gentiane. Il y a d'autres départements où on va avoir des restrictions. Par exemple, demande d'autorisation auprès de la DDT. On peut avoir 5 racines par jour et par 4 racines par jour et par personne. Donc là, c'est un peu une façon détournée d'interdire l'exploitation commerciale de la plante. Oui. Ça peut être comme dans les Pyrénées, de telle date, avec un outil précis, sur telle ou telle commune. On va avoir autant de réglementations que de départements où il y a de la gentiane. Ce qui fait que on a des zones où il n'y a pas de réglementation, des zones où c'est complètement interdit, et qu'à un moment donné, ces différences de réglementation vont provoquer des reports de pression d'arrachage sur les zones qui ne sont pas réglementées.
Et oui. Parce que justement, on va se reporter sur là où on peut y aller. Quoi.
Bien que ça s'explique à l'échelle locale, parce que chacun essaye d'adapter la réglementation à la réalité de son propre territoire. Mais globalement, si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est pas bon quand même, puisque on a ce report de pression sur les zones qui sont pas réglementées. Donc on souhaiterait, au niveau de l'association, nous, si réglementation il doit y avoir, quelque chose de plus harmonisé à l'échelle du territoire.
Belle et rebelle, la gentiane jaune illumine de rayons d'or les massifs et plateaux du Massif central.
Donc vous êtes fan dans votre métier dans le travail de l'association, autant en amont qu'en aval.
Ah, c'est ça l'animation de l'Interpro.
Et les gens vous accueillent bien, parce que des fois ça peut peut-être celui qui vient nous embêter, là, qu'est-ce qu'elle vient nous embêter à compter les racines, les fleurs dans le terrain, enfin je caricature un peu.
Non, j'avoue.
Ça se passe bien ça.
Ouais, j'avoue que j'ai un très bon accueil et je pense qu'il y a eu un gros travail de mise en confiance des uns et des autres qui nous permet de travailler dans des bonnes conditions. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir une casquette d'animateur et une casquette d'auditeur en même temps.
Oui. Parce que l'animateur, c'est un peu le copain, entre guillemets. L'auditeur, c'est...
C'est ça. Donc, à un moment donné, il faut que j'enlève ma première casquette, je mets la deuxième.
Il y en a un où ça peut être tu et l'autre, ça peut être vous. Quoi. Donc voilà, c'est plus les mêmes rapports.
Pour l'instant, ça se passe bien. Je pense qu'à terme, ce travail sera confié à deux personnes différentes. Ouais. C'est en toute logique, c'est ce qui doit se faire. On a réfléchi déjà au fait de confier les contrôles de la marque à un organisme certificateur. Ça nous apporterait certainement du crédit. Ceci étant, pour nous, c'est un peu tôt. D'un point de vue financier, déjà. Et puis, il faut qu'on finisse de bien caler notre outil, son fonctionnement, le roder un petit peu avant de confier les contrôles à un organisme extérieur.
La gentiane est utilisée en pharmacie, en agroalimentaire, principalement des licoristes, bon, dans d'autres secteurs, mais c'est surtout les licoristes. Après, il y a quand même un gros développement pour tout ce qui est vétérinaire, pharmacie, médecine, etc., avec les principes actifs. Donc là où on fait une extraction, on va chercher le principe actif, ça augmente pas, ça, le problème de la disponibilité de la ressource.
Alors, si tout le monde se mettait à vouloir de la gentiane, je pense qu'à un moment donné, effectivement, ça poserait, ça poserait problème. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être conscient que la plus grosse partie des racines exploitées sont utilisées par l'agroalimentaire, par l'industrie des boissons. D'une part, les liqueurs qui sont pas très consommatrices de racines parce que la gentiane est tellement amère et tellement aromatique qu'il faut pas tant de racines que ça pour aromatiser une boisson. Un peu plus consommateurs de racines, il y a l'eau de vie de gentiane.
Oui, parce que c'est la distillation et vu la perte, voilà. La concentration.
Donc là, on parle de 15 kilos de racines pour un litre. Et traditionnellement, la gentiane est quand même en priorité utilisée pour la fabrication de ces boissons-là.
Oui, mais ça reste très local, malgré tout. Je veux dire, l'eau de vie de gentiane, c'est plutôt les Alpes.
Mais c'est les Alpes françaises, suisses, allemandes, italiennes,
oui, d'accord, mais oui.
Et la gentiane est interdite d'exploitation dans beaucoup d'autres pays. En fait, la gentiane, elle est présente sur les montagnes du sud de l'Europe. Mais elle est pratiquement interdite de récolte dans le milieu naturel sur l'ensemble de cet arc. Donc, ce qui fait que la France, aujourd'hui, est à 99% le seul pays producteur de gentiane.
D'accord, donc on en exporte.
On exporte de la gentiane. Oui. A priori, on en a importé jusque début des années 2000. Il y en a un petit peu qui arrivait d'Europe de l'Est. Et puis, ça s'est arrêté. Et pour en revenir à la cosmétique, c'est quelque chose qui semble se développer. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas une industrie qui est très consommatrice de racines. Parce que c'est vraiment un principe actif, comme on le disait, mais les quantités de ce principe actif dont ils ont besoin pour la fabrication de produits cosmétiques est infime par rapport à ce qu'on utilise en licoristerie.
Malgré le fait qu'un principe actif, c'est des petites quantités.
Ceux qui sont utilisés sont très présents dans la racine de gentiane.
Oui.
Et en plus, ils ont mis au point une technique de upcycling, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'ils vont chercher un principe actif précis dans ce qui reste de la gentiane qui a déjà été utilisée pour l'extraction d'un premier principe actif pour une autre recette.
À propos des principes actifs et de la cosmétique, nous repartons tout à côté de Clermont-Ferrand à Saint-Beauzir où est installée la société GreenTech.
Alors GreenTech, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 92 avec à sa tête monsieur Jean-Yves Berton, toujours PDG.
Victoria Vaganet du service achat GreenTech.
GreenTech est une entreprise de biotechnologie végétale spécialisée dans l'extraction de plantes essentiellement et algues et développe et fabrique des ingrédients actifs qu'elle commercialise au monde de la cosmétique.
Biotechnologie, faut nous expliquer rapidement en quoi ça consiste, façon simple.
Alors, les biotechnologies, en fait, ce sont les technologies appliquées au vivant.
Edwige Ranouille, responsable pharmacognosie chez GreenTech.
Donc, dans les biotechnologies vertes, on va étudier les procédés qui vont permettre d'extraire au mieux les principes actifs des plantes. Dans les biotechnologies bleues, ce sont celles appliquées aux ressources marines. Et dans les biotechnologies blanches ou grises, c'est associé aux micro-organismes, donc avec des procédés de fermentation. Donc, on dispose en fait de toutes ces ressources, à la fois plantes, algues et micro-organismes, au sein du groupe GreenTech. Alors, de par les différentes sociétés du groupe.
En fin de compte, vous partez d'un végétal, la gentiane, et vous extrayez un principe actif.
Oui, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est de produire un ingrédient actif à partir d'une ressource naturelle. Donc, par exemple, la gentiane, donc la racine de gentiane. Donc, on identifie soit le sourcing sur lequel on veut travailler. Donc, par exemple, on pourrait se dire, je veux valoriser la gentiane. Donc, qu'est-ce que contient la racine de gentiane et pourquoi elle m'intéresse, en fait. Donc, on peut partir de ce sens-là. Ou on peut partir d'une activité parce qu'il y a des besoins sur le marché cosmétique. Donc par exemple, je voudrais faire un produit anti-âge. Et là, à partir de là, je vais remonter par des mécanismes d'action à des molécules. Et par ces molécules-là, dire bah, où est-ce que je peux la trouver. Et donc, par exemple, je pourrais trouver des molécules actives dans la racine de gentiane.
Le cadre est défini. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous retrouverons nos interlocutrices Victoria et Edwige. Au revoir et à très bientôt.